France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs ce matin. La première priorité de notre politique étrangère, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste, déclare le chef de l'État, compte rendu de cette intervention dans un instant avec Nadine Epstein. La Corée du Nord mène un tir de missile balistique qui a survolé hier le Japon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni d'urgence à la demande de Washington et de Tokyo, suivi de la crise avec Éric Biegala. En France, le chef de l'État nomme un journaliste, Bruno Roger Petit, nouveau porte-parole de l'Élysée. Commentaire de Ludovic Piétenu. La 19e université du MEDEF s'ouvre aujourd'hui à Jouy-en-Josas, à l'avant-veille donc de la publication des ordonnances sur la réforme du Code du travail. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, déclare vouloir encourager Emmanuel Macron à surtout ne rien lâcher sur les réformes. Analyse de Marie Viennot. La conférence de rentrée enfin du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui propose notamment d'évaluer les élèves en CP et en 6e. C'est Hakim Kasmi qui nous donnera les précisions de cette conférence de presse donc du ministre de l'Éducation nationale ce matin. L'invité de la séquence interview, Hakim El-Karoui, qui est auteur d'un rapport pour l'Institut Montaigne sur la nouvelle politique arabe de la France, dans le monde arabe donc et au Moyen-Orient. Enfin, dans la dernière partie de la grande table, Olivier.
Une quête de sens, la recherche du salut, une doctrine vieille comme le monde et des esprits, des âmes pour la porter, les gnostiques, une vision du monde. Doit-on s'en inspirer aujourd'hui? Comment peut-elle nous permettre de regarder le monde qui nous entoure autrement? On en parlera avec notre invité, l'écrivain Paco Mtielman, qui sera donc définitivement avec nous à partir de 12h55.
Après le séminaire gouvernemental d'hier qui a fixé le cap politique pour les prochains mois, le chef de l'État s'exprimait donc ce matin sur sa politique étrangère devant la conférence des ambassadeurs. La lutte contre le terrorisme islamiste, a-t-il dit dès le départ, c'est la priorité, première priorité de la diplomatie française. Explication de texte avec le président de la République lui-même, notamment sur le rapport entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Aujourd'hui, le terrorisme et son financement se sont nourris des crises régionales et des divisions. Des divisions en Afrique et des divisions du monde musulman. C'est en quelque sorte aussi ce que la crise du Golfe actuelle révèle au grand jour. Il est indispensable, dans ce contexte, que nous puissions parler à toutes les parties avec deux objectifs en tête. Le premier, préserver la nécessaire stabilité de la région. Le second, c'est d'obtenir la transparence sur toutes les formes de financement du terrorisme. Car en la matière, il ne s'agit d'avoir aucune naïveté sur ce qui a pu être fait ou ce qui parfois est encore fait en lien avec des mouvements terroristes que nous combattons sur certains théâtres d'opération. L'un des non-dits de cette crise est la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et leurs alliés respectifs. Nous n'atteindrons notre objectif de lutte contre le terrorisme qu'à la condition de ne pas entrer dans ces grilles de lecture qui voudraient imposer un choix entre chiites et sunnites et, en quelque sorte, nous obliger à nous enfermer dans un camp. D'autres grandes puissances ont fait ce choix ces derniers temps. J'ai la conviction que c'est une erreur.
Emmanuel Macron, donc, ce matin devant la conférence des ambassadeurs. Et le discours de M. Macron continue. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Vous avez assisté donc depuis le début à l'intervention du chef de l'État. On peut dire que tous les sujets, tous les continents, presque tous les conflits ont été abordés.
Exactement. Ça fait plus d'une heure que le président de la République est en train de prononcer son discours et vous l'avez dit, il a balayé tous les sujets concernant la place et le rôle de la France dans le monde, tous les conflits actuels du Moyen-Orient au Sahel, en passant par l'Amérique latine. Premier objectif, assurer la stabilité, l'indépendance et l'influence de la France en intervenant dans les conflits actuels, non pas en prenant parti pour tel ou tel camp, mais en jouant les négociateurs. Le multilatéralisme, un mot qu'a plusieurs fois employé Emmanuel Macron, il veut renforcer les relations relations bilatérales. Voilà ce qu'il veut poursuivre. Il prendra prochainement des initiatives, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, islamisme et islamique à ne pas confondre. Il s'est longuement attardé sur l'Irak, sur la Syrie, précisant que la France avait changé de méthode en instaurant un dialogue avec toutes les parties prenantes, Turquie, Iran compris. Le président de la République a parlé des sujets de développement économique, de réchauffement climatique, de la condition de la femme, avec trois mots, les 3D, comme il dit pour définir un petit peu la diplomatie, défense, développement, diplomatie, en prenant le Sahel comme la voie qu'il faut poursuivre.
Merci beaucoup Nadine Ebchan, on vous laisse donc poursuivre l'audition de ce discours. Vous étiez en direct avec nous, avec les moyens techniques de Georges Thau. On salue l'invité de la séquence interview, Hakim El Karoui, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez eu des échos de cette conférence de presse qui continue encore, de ce discours devant les ambassadeurs. Qu'est-ce que vous dites de la tonalité générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise la vision d'Emmanuel Macron sur le plan international?
Oui, peut-être deux mots. Le premier, c'est l'ambition, clairement. L'ambition, c'est l'ambition d'un homme, c'est aussi l'ambition pour un pays. Et puis le deuxième, c'est quand, le fait de ne pas prendre parti. L'idée de retrouver, je pense que ça a trait avec ce qu'il appelle le gaullo-mitterrandisme, une forme de non-alignement, une forme d'indépendance.
Ça marche avec ni gauche ni droite aussi, finalement.
Ça marche, oui, tout ça. Et ça marche avec lui en même temps.
Ni chiite, ni sunnite.
Avec la conciliation. Là-dessus, franchement, il a vraiment raison. C'est pas une guerre entre les chiites et les sunnites. C'est un conflit de pouvoir dans une région entre deux grandes puissances régionales qui sont en transformation. Donc voilà, l'ambition d'un côté, et peut-être pas au nom de l'ambition, ne pas trop être dans un camp ou dans un autre, et jouer ce rôle traditionnel de médiateur.
Hakim El Karoui, on parlera tout à l'heure donc de votre article, votre rapport sur la nouvelle politique arabe de la France, où vous expliquerez ce dont il s'agit. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a parlé ce matin de ces rapports nouveaux qu'il devait y avoir entre l'Europe notamment et le Maghreb. Une nouvelle fois, le président nord-coréen suscite l'inquiétude de la communauté internationale. La Corée du Nord, qui a mené un tir de missile balistique, a survolé le Japon la nuit dernière. C'est un essai qui intervient alors que les forces américaines et sud-coréennes mènent des exercices militaires conjoints dans la péninsule. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence tout à l'heure, à la demande de Washington et de Tokyo. Il y a quelques minutes, justement, Emmanuel Macron déclarait que les dirigeants de la Corée du Nord faisaient une nouvelle fois la preuve de leur irresponsabilité. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Kim Jong-un, qui est passé maître dans l'art de faire monter insensiblement le niveau de sa provocation. Et pour Pékin, eh bien maintenant, la crise est un tournant.
Oui, vous l'avez dit, hein, Kim Jong-un s'est passé maître dans l'art de pousser le bouchon, de pousser le missile, hein, toujours un petit peu plus loin, et cette fois, c'est quasiment une première. Ce missile a bel et bien survolé le Japon avant de s'abîmer en mer dans le Pacifique, à plus de 1000 km des côtes japonaises. Ce n'est pas la première fois que Pyongyang tire des vecteurs qui survolent le Japon, c'est même la troisième fois. Mais les deux fois précédentes, Pyongyang avait prévenu qu'il s'agissait de fusées susceptibles de mettre en orbite un satellite. Cette fois, il s'agit bien d'un missile, d'une arme, non plus tirée en cloche, atteignant une apogée à plus de 2000 km d'altitude, comme en juillet dernier. Là, le missile était retombé en mer du Japon, c'est-à-dire avant de pouvoir survoler l'archipel. Il s'agissait ce matin d'un tir sur un angle de 30 à 35 degrés, dont l'apogée n'a pas dépassé les 550 km d'altitude. C'est exactement ce qu'il faudrait pour atteindre, par exemple, l'île américaine de Guam, au sud du Japon, l'île de Guam, que Kim Jong-un menaçait d'un déluge de feu il y a encore quelques semaines. Alors, certes, et comme dans tous les autres tests de la Corée du Nord, le missile de ce matin n'a visiblement pas réussi sa rentrée dans l'atmosphère, retombant dans le Pacifique en au moins 3 morceaux. Autant dire qu'il n'est pas encore opérationnel comme arme balistique. D'ailleurs, les forces armées japonaises ont expliqué ne pas avoir tenté d'intercepter sa course, estimant qu'il ne posait pas de menace pour le territoire nippon. Tokyo dispose en effet d'un bouclier antimissile de dernière génération, dit Aegis, embarqué à bord de 6 navires croisant au large de ses côtes. Reste que la provocation est patente. La Chine parle ce matin d'un tournant dans la crise, appelant Coréens et Américains à reprendre des pourparlers, mais visiblement on n'en est pas là. Il semble qu'avant toute négociation, Kim Jong-un entendent bel et bien maîtriser la technologie des missiles balistiques, histoire sans doute d'arriver dans cette négociation avec des arguments de poids.
Éric Biégala. Des élections générales vont avoir lieu dans un mois maintenant en Allemagne et aujourd'hui la chancelière Merkel se livre à l'exercice traditionnel d'une grande conférence de presse annuelle. Les conservateurs de la chancelière qui briguent donc un quatrième mandat sont toujours donnés favoris dans les sondages. Cyril Sauvageau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté vous à cette conférence de presse ce matin. Comment fait Madame Merkel finalement pour conserver aussi longtemps le soutien de l'opinion ?
Eh bien, elle ne change rien, c'est peut-être là le secret d'Angela Merkel, sa constance, son obstination à tenir une ligne et à y rester fidèle, une chancelière au travail plus qu'une candidate en campagne. Voilà comment elle se présente à 3 semaines du scrutin, et c'est l'exercice auquel elle s'est livrée patiemment pendant 1h30 face à la presse, défendant d'abord son bilan des 4 années écoulées, le salaire minimum, le chômage au plus bas, la bonne santé des comptes publics, la loi sur le mariage pour tous, et passant en revue les défis en cours ou à venir, migration, Turquie, zone euro, avenir de l'industrie automobile. Angela Merkel, forte de son bilan et de sa stature internationale, n'a pas grand-chose à faire, à vrai dire, pour mener campagne. Et quand les journalistes lui demandent pourquoi cette campagne électorale est si ennuyeuse, elle fait une réponse à la Merkel. Pour moi, faire campagne, c'est dire et expliquer ce qu'on va faire ces 4 prochaines années et non pas insulter ses adversaires. Une petite pique à destination de Martin Schulz, le candidat du SPD qui a décidé d'attaquer frontalement, lui, la chancelière à longueur de meeting. Angela Merkel qu'elle mène sa barque et elle caracole en tête des sondages. Elle sera ce soir en meeting en ex-Allemagne de l'Est. Au total, elle a prévu une 40aine de rencontres publiques jusqu'au scrutin.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Merci. En France, le président de la République crée à l'Élysée une nouvelle fonction pour sa communication.
Et oui, le journaliste Bruno Roger Petit, on vient de l'apprendre, est nommé porte-parole de l'Élysée.
Il aura pour mission de relayer la parole publique de l'Élysée. Il utilisera tous les moyens, dit-il, à sa disposition, notamment le compte Twitter de la présidence. Ludovic Piétenu, quelle est l'idée qu'il y a derrière tout ça?
C'est d'abord de répondre à une demande, Antoine, celle essentiellement des chaînes Tout Info qui ne peuvent se passer de porte-voix, de porte-flingue et autres porte-paroles. Une demande aussi d'un porte-parole stricto sensu élyséen et non pas gouvernemental. Un poste occupé par le secrétaire d'État Christophe Castaner. Bref, c'est une demande médiatique à laquelle Emmanuel Macron répond par la nomination d'un journaliste. On pourra dire que le président entretient la collusion entre les politiques et les journalistes. On peut surtout regretter que c'est ce désormais ex-confrère, comme d'autres avant lui, qui alimente cette confusion, ce mélange des genres. Déjà pendant la campagne, suivi par près de 54 000 abonnés sur Twitter, ce qui est beaucoup sur ce réseau social, Bruno Roger Petit avait nourri contre lui de violentes critiques avec certains de ses tweets jugés trop favorables au candidat Macron, avec aussi ses éditos dans le magazine Challenge, dont le propriétaire, l'industriel de gauche Claude Perdriel, ne s'était pas caché lui-même de son soutien à l'ancien ministre de l'économie. La Société des journalistes de Challenge s'était ému vivement non seulement d'une interview fleuve d'Emmanuel Macron publiée au mois d'octobre sans aucune autre interview des autres candidats, mais s'était aussi ému des écrits de Bruno Roger Petit au mois de mars, avec nombre de ses papiers publiés sur la version web du titre de presse, participant à ce sentiment largement partagé dans l'opinion pendant cette campagne, bien qu'une partie de la presse, certains éditocrates notamment, ceux qu'on voit en permanence sur les plateaux télé, ont participé au succès d'Emmanuel Macron lors de cette élection présidentielle, tout cela ne faisant qu'alimenter la défiance envers les deux partis, le personnel politique et nous, les journalistes.
Eh oui, mais lui qui est tenu effectivement, puisque l'arrivée d'un journaliste à l'Élysée a alimenté sur Twitter notamment ses critiques sur les liens entre le monde des médias et le monde politique qui avait déjà été montré du doigt ces derniers jours avec l'arrivée de plusieurs anciens responsables politiques comme chroniqueurs dans les télés ou dans des radios.
Midi 43 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, confiance et croissance, c'est l'avenir de la France. Ainsi s'intitule la 19e université du MEDEF qui s'ouvre aujourd'hui à Jouy-en-Josas. Son président Pierre Gattaz déclare vouloir encourager Emmanuel Macron à ne surtout rien lâcher sur les réformes.
Et oui, les deux marqueurs fondamentaux, dit-il, que nous attendons et qui seront déterminants pour la suite, ce sont les ordonnances sur la loi travail, mais aussi, qui seront d'ailleurs rendues publiques après-demain, mais aussi la fiscalité, affirme M. Gattaz. Parmi les intervenants aux différentes conférences figureront une dizaine de ministres pendant ces quelques jours à Jouy-en-Josas. Et vous avez lu pour nous le programme. Marie Guénaud.
Le monde bouge, tout bouge et se transforme de plus en plus vite, lit-on en préambule du programme de ces universités d'été. Guerre au pluriel, international terroriste au singulier, doutes européens, montée des populismes, tentations protectionnistes, digitalisation, bouleversement climatique. Dans ce monde de rupture, écrit le MEDEF, il nous faut repenser nos modèles et inventer de nouvelles logiques économiques. Biglobal, soyons mondial, c'est la thématique d'aujourd'hui. Demain, ce sera Bismart, soyons malin. Comme à son habitude, le programme de ces deux jours mêle des sujets qui ne sont pas tous économiques. La religion, la déconnexion des élites et de l'opinion publique, la conquête spatiale, l'école, la guerre et les marottes habituelles du lobby patronal, la fiscalité, l'emploi, le commerce international et le financement des entreprises. C'est Pierre Gattaz qui entame le bal en début d'après-midi avec un discours de 30 minutes. 30 minutes sont aussi réservées au patron du MEDEF demain, sous l'intitulé « 60 idées pour Emmanuel Macron ». À la tribune, c'est un mélange de membres du gouvernement. 12 sont prévus au total, éducation, armée, finances, comptes publics, cohésion des territoires, etc. Deux PDG, Total, Danone, Saint-Gobain, Siemens, d'essayistes, de conseillers et de professeurs. En revanche, aucun représentant des salariés n'est annoncé. Par le passé, on pouvait croiser les dirigeants de FO, la CFDT et quasiment toujours la CFE-CGC sur le campus d'HEC. Pas cette fois. Aucun élu socialiste non plus. Comme si d'opposition il n'y avait plus. Comme si les nouvelles logiques économiques pouvaient s'élaborer entre soi.
Marie Viennot, l'invitée de la dernière partie de la Grande Table, est restée avec nous pour ce journal écrivain essayiste, pas comme Thielman. Confiance et croissance, c'est pas vraiment des mots d'ordre agnostiques, on peut dire ça.
Non, mais je pense, quand j'entends ça, à la chanson de David Bowie, quand il dit « It's a dying world », pour moi c'est un monde qui meurt, le monde du MEDEF. Il faudrait faire une pièce qui s'appellerait « Fin de partie au MEDEF » ou quelque chose comme ça.
Pourquoi,
à partir du moment où ils se braquent comme ça et ils insistent, c'est qu'ils savent que la partie du cycle historique qui leur est attribué, grosso modo, les économistes l'éveillent ça dans la quadripartite indienne des castes où on a les brahmanes, les prêtres, les guerriers, les marchands ou les économistes et ensuite les techniciens. Et on voit bien que la technologie à un moment va devenir un pouvoir beaucoup plus important. Et donc tout ce qui a pu être à un moment le temps des économistes qui s'ouvre au XVIe siècle avec le capitalisme est depuis un bon moment en train de mourir à partir
Ça n'empêchera pas qu'on pourra faire du libéralisme quand même avec ça, non ?
On va pouvoir le faire le temps de transition. Mais ça ne veut pas dire que le monde qui suit va être meilleur. Hein. Bon. C'est jamais meilleur.
Pas complètement. Bon, on verra quand même tout ça tout à l'heure dans la dernière partie de la Grande Table. Plus profondément, on vous retrouve donc dans quelques minutes. La confiance, c'est aussi un mot-clé pour le patron de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, qui donnait ce matin, lui, sa conférence de rentrée où vous y étiez, Hakim Kasmi. Jean-Michel Blanquer qui propose notamment donc d'évaluer les élèves en CP et en 6e, pourquoi faire ?
Eh oui Antoine, l'objectif du ministère, eh bien c'est de lutter contre le décrochage scolaire et cela dès le primaire. Le primaire qui pour cette rentrée est la priorité du président de la République et du gouvernement. D'où la volonté d'instaurer des tests en CP dès la mi-septembre pour détecter les élèves qui seraient en difficulté. Une mesure qui selon les syndicats intervient beaucoup trop tôt. Une enseignante m'expliquait ce matin eh bien que l'éducation c'est le temps long et que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Eh bien il y a ceux qui mettront 9 mois et ceux qui mettront 19 mois et pour autant... Cela ne veut pas dire qu'à la fin, il ne saura pas marcher. Alors, de son côté, Jean-Michel Blanquer, lui, indique que cette mesure n'a rien d'anxiogène.
N'associons pas le mot anxiété au mot évaluation. Toute évaluation doit être tout simplement constructive. Vous savez, les sciences cognitives nous montrent qu'on a besoin de se tester en permanence pour progresser. Bien, dans le domaine scolaire, nous devons voir avec beaucoup de sérénité le sujet de l'évaluation. Et en effet, l'évaluation est un trait d'union entre la famille et l'établissement. Ne doit jamais être vu comme quelque chose qui inhibe, comme quelque chose qui brime, mais comme quelque chose qui fait levier pour progresser.
Une évaluation qui s'appliquera aussi en 6e dès le mois de novembre, car 15 à 20% des élèves qui arrivent dans le secondaire ne maîtrisent pas assez l'écriture et la lecture. À cela s'ajoutera aussi, dès la rentrée des vacances de la Toussaint, un nouveau dispositif nommé « Devoir fait ». Les élèves en difficulté qui le souhaitent pourront, au collège, avoir de l'aide soit de la part des enseignants volontaires, qui seront payés en heures supplémentaires, ou bien de la part d'assistants d'éducation. Enfin, rappelons Antoine que l'année dernière, 110 000 élèves sont sortis prématurément du système scolaire, un chiffre qui est en baisse.
Voilà, la rentrée c'est donc lundi prochain, Hakim Kasmi.
Exactement, Antoine.
Merci beaucoup. 12h48, séquence interview, donc retour vers Hakim El Karoui, auteur d'un rapport sur la nouvelle politique arabe de la France. Eric Bigala, vous avez lu pour nous attentivement ce rapport.
Alors j'ai eu ce long rapport, hein, 250 pages, Hakim El Karoui, Nouveau Monde Arabe, Nouvelle Politique Arabe pour la France, c'est comme ça que vous l'avez intitulé. Vous y plaidez pour ce que vous appelez un nouveau réalisme dans la politique arabe et moyen-orientale du pays. Ça veut dire qu'on n'était plus tout à fait réaliste dans la manière qu'on avait de faire de la diplomatie en France vis-à-vis de ce monde arabe au sens large.
Oui, on peut le dire comme ça. On n'était plus tout à fait réaliste. Et puis, c'est aussi une façon d'expliquer la méthode qu'on a suivie. On est parti des fêtes. Les fêtes, c'est quoi ? Ce sont les flux, les stocks, les échanges entre la France et le monde arabe. On a fait 600 tableaux, 8 mois de travail, pour comprendre d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, c'est essentiel, comment la France et le monde arabe interagissaient. Donc l'idée, c'est de partir de la réalité. C'est ça le nouveau réalisme. La deuxième chose du néo-réalisme...
Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces échanges, par exemple ?
On constate une imbrication entre la France et le monde arabe absolument extraordinaire. Le monde arabe est aujourd'hui, pour la France, la région la plus importante avec l'Europe. C'est vrai d'un point de vue culturel. On a 30 millions de francophones, de gens qui parlent français tous les jours dans le monde arabe. On a 1,2 million de Français qui vivent dans le monde arabe. Et puis on a une imbrication culturelle qui est considérable par l'enseignement, par la formation, etc. Les écoles françaises là-bas, mais aussi l'attraction des étudiants étrangers. 30% des étudiants étrangers en France viennent du monde arabe. Et sur le plan économique, le monde arabe, c'est hors Union européenne, qui est à part, 20% des échanges de la France. C'est plus que la Chine, par exemple. Et c'est pas seulement de l'énergie, c'est pas seulement des armes, ça compte dans le Golfe, c'est un ensemble de secteurs très dispersés.
Justement, d'ailleurs, quand on regarde tous ces tableaux qui sont disponibles sur le site web de l'Institut Montaigne, on s'aperçoit très clairement, enfin c'est de manière absolument manifeste, que les relations arabes de la France, c'est les relations avec le Maghreb, beaucoup plus qu'avec les autres pays arabes, notamment les pays du Golfe ou les pays ce qu'on appelle le Maghreb. Et d'ailleurs, vous plaidez pour une politique arabe de la France qui serait recadrer, disons, plutôt sur le Maghreb, très clairement.
Je vous propose d'entendre quand même, avant que vous répondiez, ce que disait précisément Emmanuel Macron ce matin sur cette question des rapports entre la France et le Maghreb.
La stratégie que je veux mettre en œuvre consiste à créer un axe intégré entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Axe dont les pays du Maghreb sont évidemment nos partenaires privilégiés, comme j'ai voulu le montrer lors de ma visite au Maroc et dans les échanges réguliers avec l'Algérie comme la Tunisie. Nous devons arrimer ensemble, enfin, les continents européens et africains à travers la Méditerranée. Le Maghreb restera pour cela une priorité centrale pour la France, dans tous les domaines de notre coopération, qu'elle soit économique, politique, mais également culturelle.
Alors là, il a lu votre rapport en exclusivité, Emmanuel Macron. C'est exactement ce que vous dites, finalement, ou que vous avez un commentaire?
Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de nous pour penser ça, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'on pense, qu'on dit, et plus que ça, ce qu'on essaye de démontrer. C'est ça qui est important. On est lié au Maghreb dans les deux sens. Et ce qui est nouveau, depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est que pendant longtemps, la France a influencé le monde arabe, et notamment le Maghreb. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde arabe influence la France. Et il influence par l'immigration, avec des liens qui sont très compliqués. Il influence aussi, politiquement, idéologiquement, le terrorisme d'un côté. Malheureusement, c'est une forme d'influence. Ça a changé la vie des Français. Et puis, il y a la grande question de l'islam. Et puis, enfin, il y a ce dont il parle, qui est l'immigration. On va rentrer dans une ère où, moi, je suis géographe de formation, on va être dans la post-Méditerranée. La Méditerranée ne sera plus une frontière. La Méditerranée, on le voit bien, la question des migrations, c'est comment faire pour que, avec les pays du Maghreb, on crée une ère prospérité commune pour gérer les migrations qui vont venir d'Afrique subsaharienne demain. Donc il y a des dynamiques qui sont très puissantes, très complexes, très nouvelles, et la France, pendant longtemps, a regardé le monde arabe avec un petit peu de condescendance, en se disant, ben, c'est les anciennes puissances coloniales, on maîtrise tout ça, on ne maîtrise plus du tout, il faut une politique de l'islam, on l'a pas. Il faut une politique d'émigration et il faut effectivement arrêter de se laisser aller au mirage du Golfe. Le Golfe, c'est 50% de commerce de moins que le Maghreb. La Tunisie, c'est autant de commerce que les Émirats et le Qatar réunis.
Vous parlez d'ailleurs dans ce rapport de créer un hinterland français au Maghreb, de la même manière que l'Allemagne avait fait un hinterland économique avec les anciens pays de l'Est, on va dire.
Pas seulement français, on parle de la Méditerranée occidentale. La relation ne peut pas être franco-maghrébine ou bilatérale. L'histoire ne plaide pas pour ça. Et la réalité, c'est que le premier partenaire du Maroc aujourd'hui, c'est en train de devenir l'Espagne, pas la France. Mais avec l'Espagne, avec la France, avec l'Italie, avec le Maroc, avec l'Algérie et avec la Tunisie, on peut créer un vrai espace de prospérité industrielle. Il y a des complémentarités, il y a de l'énergie en Algérie, il y a du savoir-faire au nord et il y a de la main-d'œuvre au sud, de mieux en mieux formée, mais aussi dans les services. Demain, on va soigner au Maghreb. Demain, les retraités vont s'installer massivement au Maghreb. Pour ça, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité.
Mais alors, c'est un projet quand même assez ancien. Nicolas Sarkozy voulait faire l'union de la Méditerranée aussi. Bon, c'est pas la même chose peut-être, mais qu'est-ce qui bloque? Parce que manifestement, alors, ça ne se produit pas.
Ça n'a rien à voir avec l'union pour la Méditerranée, parce que l'union pour la Méditerranée, parmi les multiples erreurs, il y avait un problème de périmètre géographique. Mettre le Levant, mettre Israël, mettre la Grèce, etc. C'est des problématiques qui n'ont absolument rien à voir. Là, on parle d'une relation qui existe déjà, qui est très forte, qui a des problèmes politiques mais qui ne sont pas majeurs et qui a où en plus il y a des dynamiques d'interconnexion, d'imbrication. Il faut que la France reconnaisse qu'elle a une part d'arabité en elle.
Dernière question, peut-être Éric Béghala.
Alors, c'est peut-être la chose la plus étrange hein, dans ce rapport qui demande une nouvelle politique arabe de la France. Pour vous, ça passe par une nouvelle politique de l'islam et une nouvelle politique de l'immigration. On n'est plus dans la diplomatie, là. On ne parle plus aux États.
Francisation de l'islam de France.
Oui, mais pour une raison simple, c'est que les trois quarts des musulmans de France sont français, la moitié sont nés en France. C'est pas un sujet étranger. L'islam est devenu une religion de France. Je pense que c'est la religion la plus pratiquée en France. Comment est-ce que, face à la religion la plus pratiquée en France, où il y a des dérives fondamentalistes et djihadistes, comment ne rien faire? Comment regarder ça? On a besoin d'un financement domestique, et c'est possible. On a besoin de cadres qui sont français. On a besoin d'arrêter d'externaliser la gestion de l'islam de France au Maroc, à l'Algérie et à la Turquie, qui par ailleurs ne savent plus faire, tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas les musulmans de France, qui aujourd'hui sont français et ne sont plus des immigrés de première génération.
Hakim El Karoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie donc à ce rapport sur la nouvelle politique arabe de la France que vous préconisez. Le temps reste chaud et ensoleillé. Quelques ondées, quelques orages encore isolés, notamment sur le massif central. Des températures cet après-midi de 22 à 37 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.